hors champ. Aujourd'hui, hors champ en compagnie de Ouria Abdelwahed. Ouria Abdelwahed, vous êtes psychanalyste, maître de conférences à l'université, auteur de plusieurs livres, dont Figure du féminin en islam en 2012, et d'un livre sorti très récemment qui s'intitule Les femmes du prophète. Nous allons revenir sur le corpus de vos recherches et qui vous singularise, je crois, dans l'université française pour nous faire comprendre la culture arabe aussi bien dans l'ordre de la civilisation que dans l'ordre de la religion autrement. Mais puisque vous intéressez à la figure du féminin en islam, je voulais savoir si vous aviez été élevée petite fille par votre père ou par votre mère.
Je dirais que j'ai été élevée par mon grand-père et ma grand-mère. Enfin, c'est vraiment parce que mon père est un disparu politique et donc c'est mon grand-père et ma grand-mère qui m'ont élevée.
Et disparu politique, c'est-à-dire qu'il a été emprisonné.
Oui, pendant la période hassanienne et donc c'était une histoire très très douloureuse.
Et on vous en a parlé, à vous, petite fille?
Pas du tout. On pouvait pas en parler.
Il y avait une absence du père, mais on savait pas pourquoi.
C'est-à-dire qu'il y avait un interdit majeur de parler des disparitions et des disparus de Hassan II. Donc, je dirais que j'ai grandi dans un climat extrêmement chaleureux, beau, tendre, etc. Et en même temps, il y avait quand même cet interdit de parole et même de questionner et de dire de vive voix et à voix haute où est mon père. Enfin, c'était quand même quelque chose.
Et c'était au Maroc.
Et c'était au Maroc, dans le nord du Maroc, bien entendu. Oui.
Avez-vous pu revoir votre père?
Non, il fait partie des disparus, c'est-à-dire que on ne l'a plus revu. Donc c'était des époques extrêmement dures du règne de Hassan II. Et la dernière fois où vraiment j'ai parlé aux autorités, donc c'était à Rabat au mois de février, fin février, auprès des représentants des Nations Unies. Et donc là, il y avait pour la première fois de l'histoire du Maroc des personnes touchées par la disparition, soit du père, soit du fils pour des mères, soit des sœurs, soit.
C'est-à-dire qu'en 2016, aujourd'hui, on ne sait pas toute la vérité.
Absolument pas.
Et vous n'avez pas pu enterrer votre père.
Non.
Et vous ne savez pas où il a vécu, dans quelle prison et à quelle date il est mort.
Dans quelle prison, si. Dans la prison Boualou de Rabat. Mais simplement après, qu'est-ce qui s'est passé et toutes les personnes qui étaient là, auprès des représentants des droits de l'homme, donc aux Nations Unies, il y avait donc la même demande, à savoir, on voudrait savoir toute la vérité et puis savoir pourquoi est-ce qu'il y a... aujourd'hui, un gouvernement aussi qui freine...
Alors, il y a eu des livres, il y a eu des films énormément. Qui ont été tirés de ces livres, il y a eu des enquêtes aussi qui ont été menées, et pourtant, on ne sait toujours pas la vérité.
Enfin, l'ère de la réconciliation au Maroc, donc déjà c'est un terme que je trouve extrêmement problématique parce que qu'est-ce que ça veut dire la réconciliation? C'est-à-dire se réconcilier avec son bourreau, c'est quelque chose d'extrêmement malheureux, pas facile. Et deuxièmement, lorsque le roi actuel a lancé cette ère de la réconciliation, je ne sais pas, je suis pas à sa place, mais je pense qu'il ne mesurait pas l'ampleur des dégâts. Et après, donc, il y a des personnes qui ont été dédommagées financièrement, il y a certaines personnes qui ont été entendues, d'autres pas. Mais là, vraiment, ce qui était extrêmement dramatique, tragique dans cette scène du 28 février, C'est qu'on se, on voit vraiment l'ampleur justement des dégâts et le désastre des familles, parce que ça se passait dans un Maroc où la plupart des femmes ne travaillaient pas. Donc lorsqu'on enlève le chef de famille, qui va nourrir la famille? Et les enfants qui, au lieu de suivre une scolarité, vont être obligés de faire ce qu'on appelle les petits boulots pour aider leur mère à survivre, etc., plus la frayeur ou la terreur, parce qu'il ne faut pas parler de ceux qui ont disparu. Il y a la police secrète au Maroc, je veux dire, ce n'est pas un secret de polichinelle. Enfin, on sait tous qu'il y avait la police secrète et au sein des universités et dans les souks et dans les rues, etc. Donc c'est vrai que c'était un climat quand même extrêmement... un climat d'insécurité, un climat insécure. Et donc aujourd'hui, on va dire, il y a des familles qui osent demander vraiment à ce que la liberté soit rendue à des personnes qui sont encore emprisonnées, mais on ne sait où, et que, on va dire, que la vérité soit dite au sujet de ceux qui sont, qui ont disparu.
Est-ce à cause de ce passé familial ô combien douloureux que vous avez choisi d'être psychanalyste ?
Certainement. Enfin, il y a plusieurs choses. Donc, je disais que j'avais grandi dans un climat extrêmement chaleureux, généreux. Mon grand-père était un cheikh, c'est-à-dire le cheikh d'une confrérie. Donc, je pense aussi que l'amour de la mystique est venu de là. Et dans une famille qui adorait la musique. Alors tout le monde dans ma famille, enfin surtout les garçons, parce que c'était les garçons qui étaient autorisés à aller au conservatoire, sont des super musiciens. Donc on a les luthistes, les saxophonistes, les flûtistes, les violonistes, etc. Et les filles, donc nous, on accompagnait par les percussions et on dansait. Donc c'était vraiment dans cette ambiance-là où j'ai grandi. D'un côté, il y a le joyeux. Et de l'autre côté, il y a effectivement la douleur. Donc, lorsque j'ai eu mon bac, je voulais faire des études de philosophie. Et la philosophie a été supprimée dans les années 80. Et je me suis trouvée à faire de la littérature anglaise. Et ce que je refusais, parce que ce n'était pas mon choix, on me l'imposait. Et donc, du coup... j'ai demandé à des personnes de ma famille, enfin mes oncles qui étaient déjà étudiants en France, de plaider ma cause auprès des universités, et j'étais très facilement acceptée parce que j'avais un très bon dossier. Donc en tout cas, je suis venue en France très jeune, à l'âge de 17 ans, juste après le bac, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Si j'avais fait philo, peut-être que j'aurais continué en philo, peut-être en anthropologie, peut-être, etc. Mais le fait que je sois venue en France et que j'ai été inscrite dans une UFR de psychologie, enfin à l'université d'abord catholique de l'Ouest, à Angers, ça m'a vraiment amenée effectivement à rencontrer la psychologie, la psychanalyse après. Et je ne regrette absolument pas ce parcours, au contraire.
Nous allons écouter la voix de Simone de Beauvoir au micro de Paula Jacques, c'était en 1979.
Dans la mesure où l'altérité est un certain mythe des hommes par rapport aux femmes, bien entendu, je la récuse. C'est-à-dire dans la mesure où ils font de la femme un être vraiment autre, qui n'est, en somme, qui n'est fait pas partie vraiment de leur humanité, je récuse totalement cette notion d'altérité.
Oui, mais vous n'avez pas l'impression que, précisément à cause de la lutte féministe, et notamment de certains aspects qu'elle prend, quand par exemple des revues comme Sorcières parlent longuement de l'écriture différente, de la perception différente, de la façon différente d'être en contact avec la nature, vous ne pensez pas que ça renforce cette histoire d'altérité au lieu de la faire tomber par rapport
à... Ah oui, mais ça je suis d'accord. D'ailleurs, je suis contre ces... contre les idées de sorcières, contre les idées d'une vue différente du monde, contre les idées d'une écriture différente. Et je crois qu'en effet, ça y a vraiment une grande division dans le féminisme d'aujourd'hui, parce qu'il y a un grand nombre de femmes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui veulent faire de la femme un être humain femelle, et puis c'est tout, sans que ça implique des différences profondes ou de langage ou de perception ou de vision du monde. Et il y en a certaines qui revendiquent au contraire les différences. Et là, je trouve que c'est très dangereux, parce que ça amène à... En somme, revendiquer une nature féminine et faire le jeu, finalement, des hommes qui misent sur l'altérité.
Oui. Enfin, c'est refuser le piège de la féminitude, en somme, comme la négritude.
C'est ça. Par exemple, les attitudes d'Annie Leclerc, à qui je reconnais par ailleurs beaucoup de talent, et il y a des choses aussi dans son livre que j'aime bien, mais enfin, cette idée qu'il faut vraiment revendiquer toutes les particularités féminines dans leur particularité, je ne suis pas pour. Je trouve qu'elle a raison quand elle dit qu'il ne faut surtout pas en avoir honte, et qu'on a trop appris aux petites filles à avoir honte de leurs règles, et ensuite avoir honte aux femmes enceintes d'avoir honte de leur grossesse, et que les hommes pouvaient en ricaner. Tout ça, absolument d'accord pour que ce soit au contraire revendiqué par les femmes, et non pas écrasé, passé sous silence, ou enfin pudiquement comme ça gommé. Mais je ne pense pas non plus qu'il faut en faire la base d'une différenciation profonde entre les hommes et les femmes.
Nous venons d'entendre la voix de Simone de Beauvoir, c'était au micro de Paula Jacques. À la fin de la vie de Simone de Beauvoir, vous, Ouria Abdel-Wahed, vous travaillez depuis longtemps, malgré votre jeune âge, sur la figure féminine dans l'islam. Pensez-vous que l'universalisme de l'espèce humaine, où seraient inclus l'homme et la femme, est une nécessité pour pouvoir combattre l'expression et le statut et les droits des femmes aujourd'hui? C'est une question très importante et de plus en plus importante et peut-être même encore plus que du temps de Simone de Beauvoir, hélas.
Bah, comme vous le dites, hélas, tout à fait, parce que à l'époque de Simone de Beauvoir, si je compare, parce que là, c'est vrai que je m'intéresse plus aux figures féminines de l'islam, à l'époque de Simone de Beauvoir, il y avait aussi un féminisme dans les pays arabes. Et quand on regarde les films égyptiens, nous voyons Fatine Hamama, Umm Kalsoum, c'est une femme qui a trôné pendant vraiment des décennies sur le monde de la chanson. Enfin, il y avait des poétesses, il y avait des écrivaines, il y avait des féministes comme Houda Sharawi qui était quand même dans les années 20. Il y avait Qasem Amin, lui qui défendait la cause des femmes. Il y avait Maizayada qui avait le premier salon littéraire quand même en Égypte. Donc il y avait comme ça effectivement une, j'allais dire, une pensée autour du masculin et du féminin qui était moins en souffrance qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ça nous permet tout de suite de lier avec l'actualité bouleversante. Je pense que la montée de l'intégrisme religieux nous invite à repenser et la question de l'universalisme, la question de la laïcité, la question de, parce que Simone de Beauvoir parlait beaucoup de la complémentarité, hein, homme-femme, ou bien la femme est-ce l'autre de l'homme, comme on le dit. Donc vraiment, ce sont des questions, je pense, qui commencent aujourd'hui à insister de façon urgente. Urgente, parce que quand on voit le voilement des petites filles dès l'âge de 4 ans, 5 ans, quand on lit sur ces fatwas des imams, des saoudiens, etc., là, je pense vraiment qu'il y a une urgence dont il faut se saisir. Mais moi, la question qui m'intéresse vraiment, parce que j'aime beaucoup, pas simplement Simone de Beauvoir, mais Nawal Saadawi, Tastima Nesri, enfin, il y a des femmes vraiment qui ont essayé d'interroger cette espèce d'asymétrie qui est devenue une inégalité entre les sexes dans les cultures. Est-ce que cette inégalité est naturelle ou est-ce qu'elle a vraiment été la création de la culture, une culture de domination, et surtout ce qui m'intéresse, du monothéisme quand même. Le monothéisme est un texte quand même qui a prôné la domination masculine. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est vrai, c'est que je me dis des fois, qu'est-ce que est la femme pour l'homme pour qu'il appelle jusqu'au ciel pour essayer de la dominer? Donc il y a, c'est vrai que c'est une question extrêmement poignante. Est-ce que c'est simplement l'angoisse de castration? Ou est-ce que, parce que la femme, et là c'est tous les travaux aussi de Françoise Héritier, à laquelle les travaux, faut rendre hommage, et il faut rendre hommage à Françoise Héritier, ou est-ce que parce que la femme est au sein de la nature celle qui produit le même, donc est le différent, enfin, mais c'est vrai que qu'est-ce que la femme pour que ça provoque autant de désir, des fois qui peut être jusqu'au désir de l'annulation,
Alors, n'est-on pas en train de vivre un changement de nature, de considération même de la différence entre hommes et femmes, un très vif moment de régression? Car quand on voit, par exemple, que dans le djihadisme, il y a de plus en plus de jeunes femmes, que d'autre part, ces jeunes femmes se destinent et savent qu'elles vont en Syrie ou en Irak pour pouvoir justement se marier avec des inconnus, enfanter ce qu'elles appellent elles-mêmes des lionceaux, etc. Est-ce qu'on vit un rejet du féminisme tel que le prônait Simone de Beauvoir, ou est-ce qu'on vit une régression beaucoup plus profonde d'un rejet des conséquences de la libération des mœurs, de tout ce qui a suivi mai 68 au niveau du masculin-féminin, selon vous, Ouria?
Alors, c'est vrai que là, il y a plusieurs questions, mais pour le monde arabe, nous n'avons pas connu 68. Donc, vraiment avec son ampleur. Mais on arrivera après à ces djihadistes. Certes, il y a une régression. Il y a une régression et j'ai l'impression que la régression a débuté avec les années 80, c'est-à-dire juste après la révolution iranienne. Et alors, puisqu'il faut parler... Enfin, là, je vais donner un témoignage. Moi, à l'époque, j'étais encore au lycée, donc jeune élève, et je me souviens que des livres ont commencé à envahir le Maroc. Dans les marchés, par exemple, du Maroc, on avait des chansons palestiniennes, par exemple, de Marcel Khalifa, ou bien des chansons vraiment de Nasr Riwan, qui était des engagés politiques au Maroc, ou de Cheikh Imam, qui était un militant égyptien. Enfin, donc, il y avait ces chansons-là, puis il y avait Om Kalsoum, etc. Et petit à petit, on a commencé à entendre la voix des imams et puis petit à petit à n'entendre que la voix des imams et puis des chants religieux et puis que des versets coraniques. Donc, il y a une mainmise du wahhabisme quand même sur la jeunesse marocaine, tunisienne, algérienne, enfin du monde arabe, et en même temps sur une partie de la population de ce qu'on appelle les pauvres classes. C'est-à-dire que les pauvres classes, telle personne qui manque de médicaments, le wahhabisme va fournir de quoi acheter les médicaments, etc. Et la présence de ce qu'on appelle ces islamistes au début était une présence sociale, mais qui a pallié vraiment l'absence de la prise en charge par l'État de ces populations. Alors, pour ce qui... Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, en ce qui concerne les jeunes, c'est ce que Fatih Ben Slama travaille avec beaucoup d'acharnement, c'est que c'est vrai aussi que ces jeunes, souvent, sont des adolescents. Et on sait que l'adolescence est un mouvement qui peut aller jusqu'à la pulvérisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décompensations psychotiques à l'adolescence, il y a tout ce qu'on appelle les remaniements de la puberté, il y a les oscillations identitaires. Enfin, et donc, là aussi, il faudrait pas simplement voir la régression ou le féminisme, etc., mais ces données psychologiques également. Hein. Parce que accoucher des lionceaux ou accoucher des futurs djihadistes, c'est vraiment allier sexe et ciel. Et la jeune djihadiste, on va dire, elle vit dans quelque chose qui est, alors ça peut être une conviction délirante des fois, de vivre avec le divin et de pouvoir engendrer sur un acte divin. Mais ce qui est tout à fait intéressant là, c'est qu'il y a un roman, je trouve, qui n'a pas été suffisamment lu ou travaillé ou connu, c'est « Alamout » de Vladimir Bartol. Vladimir Bartol, donc, qui est un Slovène, donc le livre a été, il est aux éditions Phébus, traduit et c'est un livre époustouflant. Vous avez exactement ce qui se passe là. C'est-à-dire que Hassan Sabbah, qui était quand même un ami de Omar al-Khayyam, donc quand même Omar al-Khayyam, c'est la grande figure du mystique et du libertin, qui a chanté quand même le vin, la femme et le divin en même temps, donc figure plurielle, complexe, passionnante. Et Hassan Sabbah a fondé l'Ordre des Assassins. Et donc, c'était par l'appât du sexe et par l'appât des drogues et puis aussi par l'appât de la privation, justement pour donner quelque chose de tellement luxurieux Et vous avez des jeunes, effectivement des jeunes, qui exécutaient à merveille le plan de Hassan Sabah. Donc c'est vrai que ce qui est très très fort dans cette expérience à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est qu'elle s'adresse à des jeunes, et elle est perpétrée par des jeunes, et ceux qui explosent sont de plus en plus jeunes. Donc à cette période de la vie où on a, comme dit c'est vrai Ben Slama, l'idéal et en même temps la cruauté.
En tout cas, vous, Ouria, à l'intérieur de vos travaux, vous essayez de nous restituer la tradition, vous essayez de nous faire partager votre passion pour la théologie, et vous essayez de corriger beaucoup de clichés que nous avons, notamment sur le Coran. Et vous avez publié au printemps dernier un livre remarquable, mais aussi très émouvant, où d'ailleurs vous interpellez le lecteur pour dire votre émotion au moment même où vous faites votre recherche. Ce livre s'intitule « Les femmes du prophète » et c'est vraiment un livre à donner à tout le monde et qui corrige bien des idées reçues sur le Coran et sur la figure centrale de cet homme, parce qu'il était homme.
Tout à fait.
Il était un homme et il aimait les femmes. Celui qui n'a pas rédigé le Coran, mais qui, ce Coran a été rédigé par une femme, faut-il le rappeler. Comment avez-vous décidé de nous restituer cette constellation de femmes qui ont été nécessaires, vitales, indispensables à la figure donc du prophète?
Lorsque j'ai écrit « Figure du féminin en islam », il y avait cette figure plurielle. Il y avait la mystique Belkis, il y avait la cruelle, il y avait Scheherazade qui, par sa parole, guérit le roi, etc. Et donc, c'est un livre qui a paru en 2012 et donc qui est venu, on va dire, juste après les balbutiements du printemps arabe. Peter Handke m'a dit « Tu aurais dû rester avec la partie théologique ». J'essayais de comprendre pourquoi, et bon, il y a certaines personnes qui ont vraiment saisi très vite que le printemps arabe allait vers sa défaite. Et donc là, j'ai commencé vraiment, moi, au début de mes travaux, je ne m'intéressais qu'à la mystique. La mystique, parce que c'est une pensée subversive, parce que c'est la pensée de l'image, de la langue, etc. Et petit à petit, c'est vrai que les figures du féminin commençaient à se dessiner, mais j'allais dire via la mystique. C'est Ibn Arabi qui interprète la parole de Belkis, la reine de Saba, qui tisse un tableau magnifique de Marie en disant que Marie a été traversée par la pulsion lorsqu'elle a vu Gabriel sous forme humaine devant elle. Sinon, elle n'aurait pas pu accoucher d'un Jésus qui est aussi beau. Donc, si Jésus est aussi beau, c'est parce que Marie a été vraiment traversée par un mouvement de libidinalisation, etc. Et je trouvais ça formidable parce que là, il casse toute la logique aristotélicienne qui veut que le garçon ressemble à son père et que la fille ressemble à sa mère. Et pour Ibn Arabi, non, Jésus ressemble à sa mère. Et donc, il y avait quelques figures comme ça du féminin qui m'intéressaient, mais c'est vrai que l'échec du printemps arabe m'a réveillée. Et là, je dirais, comme Simone de Beauvoir, on n'est pas féministe, on le devient. C'est vrai que le printemps arabe, c'était vraiment un espoir. C'était vraiment tout un peuple, si on commence par la Tunisie, qui s'est soulevé vraiment pour vouloir chasser la dictature. Les gens n'en pouvaient plus, ils espéraient en un avenir meilleur. Mais quand on voit comment c'est devenu très très vite et très rapidement le masculin contre le féminin, ça c'est vraiment quelque chose de effrayant même. Et ce qui amène, là je lui rends vraiment hommage, Adonis, à dire que en fait...
Adonis, que vous avez traduit et avec qui vous travaillez.
Oui, à dire que en fait la société arabo-musulmane est restée très religieuse et profondément religieuse et primitive. Et c'est vrai que après la chute de Kadhafi, tout de suite on a brandi l'étendard de la charia, le retour à la polygamie, etc., comme si vraiment l'amour de la dignité devenait autre chose, donc un combat contre les femmes. Et comme à chaque fois que j'allais dans les pays arabes, je ramenais des ouvrages de plus en plus sur les femmes, là je me suis dit, je vais regarder. Au début, je n'avais même pas le projet de faire ce livre. Donc, je vais regarder et j'étalais les ouvrages devant moi et j'allais d'une version à une autre. Et ce qui changeait, c'était vraiment un petit mot, par exemple, quand au lieu de lorsque, ou etc. Mais c'était vraiment le même contenu. Et c'est ça ce qui est effrayant sur 15 siècles. C'est-à-dire d'un ouvrage qui a été écrit au 2e siècle de l'Égypte, le 9e siècle de l'ère chrétienne, jusqu'à aujourd'hui, rien ne changeait. Et donc, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'histoire au sens moderne, premièrement? Deuxièmement, comment ça se fait que l'historien d'aujourd'hui ne fait que répéter ce qui a été écrit au 2e siècle de l'Égypte? Et troisièmement, comment se fait-il qu'il raconte sans questionner? Et sans se questionner. Et par exemple, cette phrase qui a été dite au sujet de Maria la Copte, donc la concubine, il lui suffit d'avoir été dans la couche du prophète, ben moi, elle m'a bouleversée. Parce que je me dis, elle était la fille de la cité égyptienne, donc le plus beau pays de Byzance à l'époque. Elle a grandi dans un palais. Après, elle se trouve, même pas à Médine, mais dans un coin loin des autres concubines et femmes qui la jalousaient. Elle perd son fils. Elle vit vraiment un véritable exil. Et on lui dit, ben, il suffit qu'elle ait été la concubine du prophète ou qu'elle a été dans la couche du prophète. Donc, c'est vrai que ça m'a amenée à réfléchir sur, d'abord, le féminin au sein de l'islam. Deuxièmement, cette mainmise sur et le corps de la femme et sur sa psyché. Sa pensée, dans les textes, elle ne pense pas, elle ne réfléchit pas, et elle ne pleure même pas lorsqu'on décapite son père. Et elle est très heureuse d'être l'épouse du prophète qui a ordonné la décapitation du père et du mari. Donc, ce sont des histoires quand même. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'histoire de Khadija qui est très connue. C'est la mère épouse, l'épouse mère, celle qui a, on va dire, propulsé Mahomet vers son destin de prophète. Elle est très connue. L'histoire de Aïcha, elle est connue, mais ce qui m'effraie des fois, c'est que je me dis, même les psychanalystes aujourd'hui, même en Occident, n'arrivent pas à penser vraiment la confusion de langue, sachant que c'est une petite fille qui avait 8 ans et qui était donnée en mariage à un homme de 50 ans. Aujourd'hui, nous parlerions facilement de pédophilie, mais comme il s'agit d'une figure sacrée, on ne peut pas le dire. Donc, une autre qui est très connue, c'est Hafsa, la gardienne du Coran, mais il y a un voile épais sur toutes les autres femmes et les autres concubines.
Eh bien voilà, pour en savoir plus et découvrir la constellation des femmes sans qui Mohammed le prophète n'aurait pu vivre et perdurer sans doute pour l'éternité, il faut lire votre dernier ouvrage ainsi que le précédent. Donc votre dernier ouvrage s'intitule « Les femmes du prophète », il est paru aux éditions du Seuil, et l'autre s'intitule « Les figures du féminin ». Merci beaucoup Ouria Abdelwahed. Merci aussi à l'équipe de Hors-Champ, merci à Samuel Bernard, Corinne Amard, Élodie Royer, Pierre Monteil et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture.
Merci à vous.